cobuzz.com. Le symphomane.
Why'd you do it, kid?
She asked me to.
That the only reason you got, kid?
They shoot horses, don't they?
Eh oui, on achève bien les chevaux. Alors pourquoi pas les symphonies ? Amis auditeurs, podcastique, bonjour et bienvenue chez le Zozoteur de service. Toujours prêt avec des remarques du plus mauvais goût, des jeux de mots douteux et quelques extraits musicaux destinés à masquer le fait qu'il n'est pas grand-chose à vous raconter. Cette fois, si vous le voulez bien, nous vous entretiendrons de quelques œuvres que les compositeurs ont laissées en plan, soit qu'ils aient eu mieux à faire entre-temps, soit qu'ils aient trouvé trop nuls pour continuer, ou encore qu'ils soient morts la plume à la main, la joue collée sur l'encre encore humide de leur partition. À ce sujet, on pourra regretter d'ailleurs que personne n'ait vérifié sur la joue de Mozart si la fin du Requiem n'y était pas encore imprimée en négatif. À moins naturellement que ce bonnet de Süssmayr n'ait bel et bien noté la partition ainsi collée sur feu son maître en oubliant tout bêtement qu'il fallait inverser les notes, d'où la médiocrité relative de certains de ses ajouts. Naturellement, tout le monde, même ma concierge, connaît la symphonie inachevée de Schubert. Deux mouvements ont été livrés, et si je demandais à ma concierge la raison pour laquelle le compositeur s'est arrêté là, je vous parie 2 semaines de repassage, par exemple, qu'elle me répondrait « Mais je sais pourquoi elle est fallissée, on t'est déjà cabar !» Ce qui se traduit environ par « Il est mort avant de terminer ». Mais non, que nenni, aimables et patients auditeurs, Schubert a bel et bien écrit un scherzo, troisième mouvement, largement avancé. Les premières pages, entièrement orchestrées, le reste livré sous forme de partition réduite, mais dont le discours complet est bien là. Et là, taratata, mesdames et messieurs, c'est tout bonnement raté. Pas bon, pas du tout, du tout, du tout, du niveau des 2 premiers mouvements. Et Schubert, pas plus bête qu'un autre, l'a compris avant tout le monde. Il s'est donc sagement abstenu de continuer dans ce sens. Vous ne me croyez pas, bien sûr. Alors voici le 3e mouvement de la symphonie inachevée de Schubert, qui n'en compte que 2.
Thank you.
N'est-ce pas que j'avais à peu près raison ? Bon, il est vrai que si ce mouvement avait été écrit par, François Schubert ou Frank Bertschou, on aurait crié au génie, mais en comparaison des deux premiers mouvements, on n'hésitera pas à actionner la pédale de la poubelle. Cela dit, saluons quand même au passage Monsieur
Brian Newbold.
Merci. Qui a orchestré cette chose afin de nous la présenter dans le seul but que l'on puisse s'apercevoir que c'est raté. Mais, en effet, ainsi que me le confirme ma concierge, il existe une brouette d'œuvres inachevées pour la seule raison que le malheureux compositeur est mort dessus. Turandot de Puccini, Loulou, le tristement célèbre Requiem de Mozart dont on parlera plus tard. Mais il s'est presque toujours trouvé une bonne âme pour achever le cheval une fois le jockey disparu. Turandot fut terminé par Alfano, une version assez hollywoodienne avec Happy End de rigueur, comme si la mort de la pauvre petite Liu était tombée à la trappe, l'affreux calaf, la remplaçant bien vite par la pulpeuse et riche princesse Turandot, un bien meilleur parti, il faut l'avouer, qu'une simple esclave affligée en plus d'un prénom porté par plusieurs millions de Chinoises et de Chinois. Bon, il existe aussi une fin concoctée par Luciano Berio, paraît-il, je ne la connais pas, il faudra que je cherche. Je vous parlais du Requiem de Mozart, c'est une autre paire de manches. La partition, achevée par Zeus Maia, comporte bien des maladresses que même ma concierge a découvertes, c'est dire. Mais d'habiles musicologues ont rassemblé les diverses sources, les esquisses oubliées. Certains ont viré tout de go le boulot de Zeus Maia, d'autres l'ont intégré et modifié. Bref, voici le Lacrimosa, d'abord dans la version habituelle de Zeus Maia, dirigée par Céla Bidoche. Alors on ne s'étonnera pas que ça dure presque 4 minutes. Et maintenant, la version établie par Robert Levin en 1995. Il n'y a pour l'instant que peu de différences avec la version de Süssmayr, par exemple les plaintes des violons qui ont été changées, et seule la fin a totalement été remaniée pour pouvoir s'enchaîner avec la fugue de l'Amen, que vous ne connaissez sans doute pas, puisqu'elle a été récemment redécouverte. Voici donc la version Robert Levin. Toujours plus loin de Süssmayr, voici la version Duncan Drews de 1984 par Roger Norrington.
Thank you.
Et enfin, la version de Richard Maunder, 1986, qui efface radicalement toute trace de Süssmayr. Et encore, il existe sans doute d'autres versions, mais ces quatre-là, ces quatre visions, vous donneront déjà un parfait aperçu de ce que cela peut représenter que de terminer l'ouvrage d'autrui. Par contre, certains ont bel et bien achevé leur ouvrage, mais n'en furent pas vraiment satisfaits. Par exemple, Moussorgsky, il avait tout à fait terminé son poème symphonique « Une nuit sur le Mont Chauve » dès 1866, ainsi qu'en témoigne cette lettre à un ami. Deux points, ouvrez les guillemets. « Ma nuit de la Saint-Jean sur le Mont Chauve est, dans sa forme et son caractère, russe et originale. Je veux être certain qu'elle est pleinement en accord avec la vérité historique et la tradition folklorique russe. Sinon, elle ne vaudrait pas la peine. Je l'ai écrite rapidement, d'emblée à l'orchestre, sans établir de brouillon. J'y vois un produit indépendant russe, libéré de la profondeur et de la routine germanique nourrie de pain russe. » Fin de citation. Par ailleurs, il déclara qu'il ne la remanierait jamais, ce que l'avenir ne devait certes pas confirmer, car après avoir été vertement critiqué par Balakirev pour son ouvrage, il devait le ranger, dépité, dans un coin, pour l'intégrer 6 ans plus tard, dans une version pour chœur et orchestre, dans son opéra inachevé, bien sûr, Mlada, puis une dernière fois en 1880, dans l'opéra toujours inachevé, La Foire de Sorochinsky. C'est d'ailleurs dans cette dernière version qu'il introduisit le thème, que Rimsky devait utiliser comme toute dernière partie de sa propre réécriture de la nuit sur le Mont Chauve. Mais voici donc la toute première version terminée mais jamais vraiment digérée, d'une œuvre constamment inachevée, La nuit sur le Mont Chauve, originale de Moussorgsky.
Thank you.
mais bien plus problématique, la 9e symphonie de Bruckner, par exemple. Elle a donné lieu à des achèvements homériques, mais aussi à des guéguerres tout aussi homériques entre les différents acheveurs. Pour mémoire, Bruckner a laissé en plan le dernier mouvement, non pas avec trop peu de matériaux, mais à la limite avec beaucoup trop d'esquisses, beaucoup trop de matériaux, de sorte qu'il est bien difficile de savoir ce qu'il aurait lui-même finalement gardé et ce qu'il aurait laissé de côté. Si de nombreuses pages sont achevées, orchestration comprise, le tout début du mouvement, la continuité laisse un petit peu à désirer et il appartient aux hardis chevaliers brucknériens de prendre sur eux le risque de savoir jusqu'où ils peuvent aller trop loin. Citons parmi les versions du quatrième mouvement celle de Karaghan, 1985, reprise en 2005, comme quoi on peut toujours se tromper, de Nicolas Samale et Giuseppe Mazzucca en 87, une version reniée plus tard par les deux personnages, qui ont préféré s'adjoindre les lumières de deux autres aficionados, John Phillips et Benjamin Coas, pour concocter la version Samale Mazzucca Phillips Coas, qui combine les thèmes des quatre mouvements à la fin. Ça marche ou ça marche pas, bon, allez savoir. Mais il existe depuis peu, quelques semaines, d'ailleurs quelques mois, une toute nouvelle réécriture de la plume du compositeur belge Sébastien Letocard, ça ne s'invente pas, enregistrée à Budapest par le chef français Nicolas Couton. Ce monsieur Letocard explique d'ailleurs par le menu son travail et sa démarche, s'appuyant, parfois pour s'en éloigner, sur tous les travaux précédents. Vous trouverez d'ailleurs cette thèse en cliquant là où il faudra cliquer au bon moment, où il faudra cliquer, ou mieux sur le lien indiqué dans la liste des musiques de ce podcast. Selon le journal Diapason, cette version, ouvrez les guillemets, parvient à donner une expression crédible de la symphonie dans sa totalité. À vous de juger. Voici les 5 ou 6 dernières minutes du final, donc de la partie réellement réécrite. Thank you. travail titanesque s'il en est, mais tout à fait réussi, à mon humble avis. Bon, heureusement, toutes les œuvres inachevées ne posent pas autant de problèmes que cette neuvième de Bruckner. Et parfois, ce sont les disciples du maître qui finissent le boulot sur les indications plus ou moins claires laissées par le défunt. Je pense en particulier au Nocturnal de Varèse, fini aux deux tiers, qui a été achevé par son élève et ami Chou Wangchong, d'après de très nombreuses esquisses. Et on pourrait perfidement ajouter que quelques fausses notes par-ci, par-là, dans du Varèse, dans cette foison de badaboum dans tous les sens, ça ne changerait pas grand-chose. Mais je suis une mauvaise langue. Et la 7e symphonie de Tchaïkovski, vous connaissez ? Ah bah tenez-vous bien, la 7e fut écrite juste après la 5e et avant la 6e et dernière. Aberrant, me direz-vous. Sauf si l'on sait que la 7e, celle qui aurait dû s'appeler 6e, ne fut jamais terminée. Tchaïkovski l'abandonna en 1892, un an donc avant sa mort, et réutilisa le matériau dans son 3e concerto, inachevé lui assis. Ce n'est qu'en 1950 que le compositeur russe Semyon Bogatyriov reprit les esquisses, les morceaux terminés, ainsi bien sûr que le 3e concerto, qu'il déconcerta pour lui rendre sa forme purement symphonique. Si le résultat sonne bien comme du Tchaïkovski, c'est là le Tchaï un tout petit peu épais, disons un peu lourd, qui ne va pas forcément droit au but, et qui ne rappelle en rien les extraordinaires finesses de la 6e et de ses dernières œuvres. Sans doute, le compositeur savait-il pourquoi il avait mis sa partition en veilleuse. Mais si l'on imagine que ce serait là la partition d'un compositeur inconnu, on crierait bien sûr au génie. Voici donc un morceau du premier mouvement de la 7e symphonie de Tchaïkovski.
Thank you.
Ah là là, on achève bien les symphonies, les opéras et les chevaux, alors pourquoi pas les lézards? Ah, je parle naturellement de lézards de la fugue, pas de zoologie. Les théories abondent quant à savoir le fin mot de la fin. Loin d'être sa dernière œuvre, fébrilement écrite sur le lit de mort de ses dernières mains tremblant dans un regard aveugle, il semblerait peut-être qu'elle ait été concoctée aux alentours des années 1740-42 dans ces eaux-là, à une époque où monsieur lutinait encore solidement madame, puisqu'il l'engrossa quand même encore en 41 d'une Regina Susanna Bach née en 42 et morte en 1809. Cela dit en passant, on se demande si l'indication manuscrite du fiston entre guillemets, sur cette fugue où le nom de Bach est utilisé en contre-sujet et mort l'auteur, fermez les guillemets, serait un truc promotionnel pour faire pleurer ma concierge. Le manuscrit complet, achevé, aura-t-il été perdu? On ne sait pas trop. Bach aurait-il voulu défriser ses héritiers en laissant un machin en plan? Cette dernière fugue n'appartient-elle pas à l'art de la fugue? Allez savoir. Toujours est-il que de nombreux musiciens se sont lancés dans l'achèvement de ce cheval-là, parmi lesquels Lionel Rogge, Helmut Walcha, David Moroney, Donald Tovey et bien d'autres. Mais votre serviteur en a dégoté une inédite, tout à fait extraordinaire, à la fois rose et panthérine, que voici, écoutez soigneusement à partir de 2 minutes 30. Thank you. Étonnant quand même, comme quoi même des culottes en panthère rose vont à Bach. Le sujet même des œuvres inachevées restera quand même inachevé, car il nous faudrait encore vous parler sinon du second concerto pour piano de Balat Kirev, obligeamment terminé par Lyapunov, de la dixième de Mahler, de la troisième d'Elgar, ou même des neuf symphonies délibérément inachevées du compositeur farceur sur les bords, le belge Baldwin Bakings, qui a rassemblé ses neuf symphonies inachevées sous le numéro de catalogue BBWV 1992, Baldwin Bakings, non sans un certain humour. Mais pour en finir avec les œuvres pas terminées, voici la célèbre Unstarted Symphony, la symphonie pas commencée, de Victor Borge, dont j'ai réussi à me procurer un exemplaire de la partition après 1000 bassesses auprès de la concierge des ayants droit. Victor Borge, les 12 premières mesures et, oserais-je ajouter, les plus phénoménalement réussies de sa symphonie non commencée. Et sur ce, chers amis podcastiques, à bientôt. Cobuzz.com. Le Symphomane.